Voilà, mais écoutez, j'aimerais encore prier, puis ensuite on va ouvrir nos Bibles ce matin. Seigneur, merci de tout cœur pour ce matin, pour la louange que nous avons déjà eue, Seigneur, à ta gloire, pour la Sainte Seine. Seigneur, vraiment, nous te louons notre cœur, nos cœurs sont pleins de toi, Seigneur, et nous voulons maintenant venir à ta parole, qu'elle nous remplisse aussi, Seigneur, et que nous soyons attentifs à ce qu'elle dit. Et Seigneur, aide-moi dans la prédication, Seigneur, que je sois vraiment collé à ta parole et que c'est toi, ton esprit, Seigneur, qui communique dans nos cœurs ce que nous devons comprendre. Donc voilà, fais ton travail dans chacun de nos cœurs. Nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, alors nous continuons et terminons aujourd'hui notre série commencée il y a déjà 3 dimanches, mais c'est la dernière partie. Nous sommes dans 2 Timothée. Chapitre 2, et nous allons en fait terminer le chapitre de Timothée 2, un message, troisième partie, que j'ai intitulé « Les éléments d'une vie chrétienne solide ». Les éléments d'une vie chrétienne solide. Et si vous êtes chrétien, je pense que vous voulez être un chrétien solide, d'accord ? D'être un chrétien, je ne sais pas, l'opposé de solide, c'est quoi, faible ou non solide, c'est quoi l'opposé de solide ? Mou, voilà, merci. Alors, ils vont pas être un chrétien mou, on veut être des chrétiens solides. Alors, juste pour réviser très très brièvement, pour juste comprendre le contexte, dans 2 Timothée chapitre 2, la clé en fait de tout ce chapitre se trouve au verset 1, donc c'est assez simple. Paul écrit, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Alors Paul, l'apôtre Paul qui est en prison à Rome, écrit à son jeune protégé, son jeune pasteur qu'il a laissé à l'église d'Éphèse, et il lui dit, donc son enfant qu'il avait amené au Seigneur, il lui dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Le mot « fortifier » du mot « enamonou » du mot « dynamite ». En fait, il lui dit « Redeviens dynamite » ou « Redeviens fort comme tu l'étais auparavant ». Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le but du chapitre. Alors, question, comment fait-on pour se fortifier dans le Seigneur? Eh bien, il le dit au verset 1, en fait, on pourrait presque s'arrêter au verset 1 parce qu'il répond. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est en puisant dans le Seigneur et dans sa grâce que nous pouvons devenir forts dans le Seigneur. Alors, maintenant, il va élaborer, bien sûr, sur ce point. Et pour fortifier ce jeune pasteur, Timothée, dans le Seigneur, suite à un moment de découragement ministériel, ça on l'a vu aussi, il était dans un moment de découragement, tantôt parce que Paul était emprisonné, donc il était déprimé par rapport à cela, mais aussi parce qu'il y avait pas mal de problèmes dans l'église d'Éphèse, et il était déprimé par rapport à ça. Donc à un moment donné, il s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Oui, dit Paul, dans le Seigneur, reste fort. Et là, il va donner, dans ce chapitre, 8 analogies pertinentes, qui deviennent en quelque sorte le rappel à Timothée des éléments d'une vie chrétienne solide. Et alors, nous avons déjà vu les premières 6 analogies, alors je les liste tout simplement ici. Nous avons vu, la première est celle de formateur, il lui dit, pour devenir fort, deviens un formateur, aide les autres à apprendre. Deuxièmement, l'analogie d'un soldat. Troisièmement, l'analogie d'un athlète. Quatrièmement, d'un cultivateur. Cinquièmement, il utilise... disons l'illustration du sauveur et sixièmement d'un ouvrier. Donc ça on l'a déjà vu, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais aujourd'hui on va regarder les dernières 2 analogies, celle d'un vase et celle d'un serviteur. Et donc j'aimerais lire les versets 19 à 26, les versets qu'on va examiner ce matin, les versets 19 à 26 de Timothée 2. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc, Paul ici donne deux analogies pour fortifier Timothée. La première, celle d'un vase, et la deuxième, celle d'un serviteur. Alors, essayons de comprendre. C'est ce qu'il dit au verset 20, n'est-ce pas ? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Je ne sais pas si vous avez des animaux chez vous. Nous, on a un chat. Peut-être on a eu tort, mais on l'a appelé Duchesse. Et je pense que ça lui est monté sa tête. Elle se prend vraiment pour une duchesse, d'accord ? Alors, je vais vous dégoûter, d'accord ? Mais c'est le but. Excusez-moi, c'est dimanche matin, mais je vais vous dégoûter. Parce que notre chat Duchesse a une habitude horrible. Absolument dégoûtant et infecte. Si vous avez un chat, peut-être vous savez de quoi je vais parler maintenant. Notre chat a l'habitude d'aller boire dans les toilettes chez nous. C'est franchement dégoûtant. Combien de fois j'ai parlé à notre chat? J'ai dit, Duchesse, c'est deg ce que tu fais. Tu devrais vraiment pas faire. Et en plus, alors on lui pourvoit de l'eau fraîche, du lait. Elle va aux toilettes. C'est quand même incroyable. J'ai presque voulu amener mon chat ce matin pour qu'elle entende ce message. Mais je sais que ça ne servirait absolument à rien. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans une maison, il y a deux types de récipients. Il y a des récipients ou des vases qui ont des utilités honorifiques et d'autres qui ont des usages vils. Et ça, c'est le but de cette septième analogie, pour qu'on comprenne la différence entre ces deux types de récipients. Alors, tout commence au verset 19. Regardez verset 19. « Néanmoins, Paul dit, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Paul va, au verset 20, nous parler des vases et des vases purs. Ici, il nous explique la nature de ce vase. Il dit le fondement, c'est ce qu'il dit au verset 9, le solide fondement posé par Dieu subsiste. De quoi parle-t-il ici? Eh bien, probablement, si nous reculons à 1 Timothée 3 et le verset 15, c'est le contexte des deux épîtres, il dit, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, virgule, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, probablement, Paul ici décrit l'église. Et le sceau dont il parle au verset 19, hein, le Seigneur, le sceau qui lui sert de sceau, est un signe d'appartenance, de propriété. On mettait un sceau sur quelque chose qui nous appartenait. L'Église appartient à Dieu. Et maintenant, dans les versets qui suivent, Paul veut décrire pour Timothée ceux qui appartiennent, ou du moins ceux qui sont dans l'Église. Disons ici, les vrais chrétiens, il y a deux caractéristiques fondamentales de ceux qui sont dans l'Église. Il le dit au verset 19, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Donc, la première caractéristique d'un vrai chrétien, c'est qu'il est connu du Seigneur. Le chrétien est celui qui est choisi par le Seigneur. Vous allez voir, ça va tout s'éclaircir dans quelques instants. Dans Jean 10, 27, Jésus dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Voyez-vous, Dieu choisit en Christ ceux qui lui appartiennent. Ils sont élus, C'est ce que nous dit Éphésiens 1. Donc, ils sont connus du Seigneur. Et deuxièmement, verset 19, ils s'éloignent de l'iniquité. Ceux qui sont vraiment chrétiens, ceux qui sont vraiment connus du Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, rachetés par le sang de Jésus-Christ, auront maintenant une tendance automatique de vouloir s'éloigner de l'iniquité. Un chrétien régénéré, pardonné par Christ, déteste maintenant son péché et veut s'en éloigner. Je pensais à Romains 6, 22. Souvent, on cite, lorsqu'on parle aux gens, Romains 6, 23. Romains 6, 23 dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais regardez verset 22. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Un vrai chrétien, un chrétien dont le cœur a été transformé par Christ, devient esclave de Dieu et a comme fruit la sainteté. Il va aimer ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est droit, et il va repousser et détester le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus pécher, mais ça veut dire que lorsqu'il pêche, il y aura une réaction dans son cœur qui dit « Ah, je déteste ça ». Bien sûr, peut-être la réaction initiale, c'est « Ah, j'aime bien mon péché ». Ensuite, il va être meurtri et triste par ce péché parce qu'il sait qu'il a été à l'encontre de la sainteté qu'il a reçue en Christ. Et donc, si vous ressentez une bataille en vous, entre cette sainteté et ce péché, c'est bien. Si vous ne ressentez pas de bataille chez vous, c'est pas bien. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien. Donc ça, c'est la nature de ce vase. Vous dites, attends, je comprends pas. Mais oui. Parce que maintenant, il va décrire deux types de vases. Un type de vase, c'est le vase qui est le chrétien authentique. Le chrétien dont la vie est pure. Le vase à usage vil, c'est quelqu'un qui est dans l'église, mais un vase de déshonneur. Il y a cette impureté en lui qui révèle qu'il n'est probablement pas un vrai chrétien. Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant verset 20? Regardez. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Donc, il dit tout simplement que dans une grande maison, pourquoi une grande maison? Car une petite maison implique moins peut-être de ressources, qui aurait peut-être moins de diversité dans le type d'utensiles et de récipients utilisés pour les tâches ménagères. Donc, il parle d'une grande maison où il y a toutes sortes d'ustensiles, de vases, et il dit qu'il y a deux types. Il y a premièrement les vases d'honneur. Ce sont ceux d'or et en argent. Et ensuite, il y a les vases de déshonneur, ceux qui sont fabriqués en bois et en terre, du moins à l'époque. Alors, je ne sais pas, si vous avez chez vous des vases ou des verres super jolis en or ou en argent, en cristal, je pense que vous avez utilisé ces vases-là, ces récipients-là, pour des choses d'honneur, peut-être un bon vin ou quelque chose comme ça. Mais vous avez peut-être aussi des vases vraiment vils qui sont utilisés pour d'autres choses vraiment pas très belles. Les vases honneur d'honneur sont ceux d'habitude qu'on utilise pour la nourriture. Des belles assiettes peut-être que vous avez. Ceux qu'on utilisait à l'époque, qui étaient des vases de déshonneur, c'était ceux qu'on utilisait pour les déchets ou peut-être même pour les excréments. Enfin, c'est marrant, ça m'a fait penser, parce que quand j'avais 19 ans, je suis parti en Inde. J'étais hippie, queue de cheval et tout ça. J'ai rencontré le Seigneur à New Delhi, comme vous le savez. Mais quand j'étais en Afghanistan, on a traversé l'Iran, on est arrivé en Afghanistan, et on était dans un petit hôtel à Herat, petit hôtel qui coûtait, je crois, $1 la nuit. Hein, c'était vraiment des hôtels pas chers. Et j'avais jamais vu ça, mais dans cet hôtel, dans chaque chambre, il y avait des crachoirs. Je me rappelle très bien, j'avais jamais vu ça. Et c'est des crachoirs qui ne vidaient jamais. Et voilà, exactement. C'est ce que j'attendais comme réaction, d'accord? Pour imaginer ce qu'il y avait dans ces crachoirs. Et à longueur de journée, parce qu'ils mâchaient une sorte de truc rouge, vous savez, et ils mitraillaient, ils crachaient dans ces crachoirs. Alors l'idée était bonne, c'était pour ne pas cracher dans l'hôtel. Mais à regarder ce crachoir, ça fait vraiment pas envie, quoi. D'accord? Ça, c'était un ustensile à un usage vil. D'accord ? Alors, de quoi parle-t-il ici ? Alors, bien sûr, d'un côté, il parle des vrais chrétiens et des faux chrétiens, mais si maintenant on recule un petit peu plus dans le contexte, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a regardé les versets 16, 17, 18, et là, nous avons vu que Paul évoquait la question d'ouvriers fidèles dans l'Église, au verset 15, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, en contraste, au verset 16 et 18, avec les adversaires de la foi, ceux qui propageaient l'erreur et l'hérésie dans l'Église, dont, nous le voyons ici, verset 17, il y avait deux hommes, Hyménée et Philète, qui s'étaient détournés de la vérité. Donc apparemment, il fait un contraste encore plus que simplement un vrai info chrétien, mais d'un chrétien fidèle, donc puisqu'il parle à Timothée, celui qui dispensait droitement la parole de la vérité, en contraste avec ceux qui le faisaient mal et donc prêchaient l'erreur. Alors ça, c'est l'intro.
D'accord.
La question que Paul pose ici, c'est quelle est la nature d'un vase d'or et d'argent ? Quelle est la nature ou quel est le descriptif d'un vase d'honneur ? Et je pense qu'il nous parle à nous, comme il parlait à Timothée. Toi, tu veux être un vase d'honneur ? Alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça ressemble ? Quel est le descriptif d'un vase d'honneur ? Eh bien, nous allons voir qu'il y a 8 descriptifs de ce vase d'honneur. C'est tout là. Ça va aller très vite, très simple. Mais maintenant, vous êtes un vase pendant quelques minutes, d'accord ? Un vase d'honneur. Numéro 1. Un vase d'honneur est pur. Est pur. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur. Le mot pur ici veut simplement dire laver totalement. Si quelqu'un se conserve pur, s'il veut être propre, il le fait en s'abstenant de ces choses, il dit, il sera un vase d'honneur. S'abstient de quelque chose, apparemment, le contexte juste précédent, c'est des vases de déshonneur. Il y a une séparation, quelque part, entre un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Moi, j'y pensais. Si on était en Afghanistan, je ne pense pas que vous prendriez un crachoir et que vous le mettriez dans le même endroit de votre maison que votre plus beau cristal. Vous les sépareriez vraiment loin l'un de l'autre. C'est ce qu'il dit ici. Si tu es un vase d'honneur, tu te distancies des vases de déshonneur. De ceux, apparemment, contextuellement parlant, de ceux qui enseignent l'erreur. Alors c'est vrai, il y a des gens dans l'Église qui créent des problèmes, qui peuvent créer des problèmes, par la grâce de Dieu, ce n'est pas notre cas, mais cela peut arriver. C'est intéressant, dans Tite 3.10, il est dit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Il y a un moment donné où il faut se séparer de ceux qui proclament et prêchent l'erreur dans l'Église. C'est intéressant, il y a beaucoup de versets qui parlent de cette distanciation qu'il faut avoir. Je pensais à 2 Timothée 4, 14 qui dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Dit Paul, « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Donc Paul n'a pas peur de dire « Écoute, là, il y a une personne, il y a vraiment un problème, quoi. Il nous a fait du mal, distancie-toi, fais attention. » Dans 1 Corinthiens 5, là, il parle plutôt à des chrétiens par rapport à d'autres soi-disant chrétiens. Et ça, c'est très intéressant. Hein ? Parce que là, le but, c'est d'être pur. Dans 1 Corinthiens 5, 9, il a dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des débauchés. » Donc, ceux qui sont dans la débauche, contextuellement, probablement, de sexuel. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il dit pas, n'aie pas des relations avec ton voisin ou tes amis, des gens que tu connais qui sont débauchés ou cupides ou ravisseurs ou idolâtres. Sinon, il faudrait que tu te coupes des non-chrétiens. Et c'est pas le but. On est là pour les amener au Seigneur. Donc, il faut maintenir des relations avec ces gens-là. Mais, verset 11, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère. Voilà, c'est une personne qui se dit, moi je suis chrétien, moi je connais le Seigneur, mais que ce frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il dit, si cette personne se dit chrétienne, elle vit comme un non-chrétien, ne mange même pas avec lui. C'est radical ici. Mais un non-chrétien, ah oui, alors ah oui, il n'y a pas de problème, tu peux manger avec lui, parce qu'il faut l'amener au Seigneur. Donc, un vase est pur. Et il se distancie de ceux qui vont créer de lui une impureté quelque part, qui risquent de le contaminer. Deux. Il est sanctifié. Il est sanctifié. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Le mot sanctifié veut simplement dire mis à part. Nous sommes mis à part un chrétien, c'est intéressant, un chrétien vivait dans le monde péché, quelque part, on peut le dire comme ça. Et lorsqu'il devient chrétien, il est sorti de cette piscine du péché, il est mis à part dans la piscine de sainteté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est parfaitement saint, il l'est au regard de Dieu, parce que Christ lui a pardonné, mais sa vie pratique, eh bien, c'est une progression. Mais on est sanctifié, on est mis à part, comme on mettrait à part un verre de cristal ou un service très beau à la maison, dans un endroit, pour qu'il soit différent des autres. C'est ici l'idée. Alors bien sûr, il y a une sanctification positionnelle. Dieu nous a déjà déclaré sanctifiés, 1 Pierre 1-2. Mais il y a aussi cette sanctification pratique. De nouveau, là, il y a beaucoup de versets sur ce genre de choses. J'en nomme que deux ici. Excusez-moi, trois plutôt. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, où il dit ceci, au reste frère, puisque vous avez appris verset 1, de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ce n'est là que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous avez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Intéressant. Donc, je te pose la question. Est-ce que tu es un vase d'honneur? Est-ce que ta vie rend honneur à Dieu? Est-ce que tu es pur? Ou est-ce que ta vie est une lutte qui lutte pour la pureté? Et est-ce que ta vie est vraiment séparée? Est-ce que tu es vraiment différent des gens autour de toi dans le monde? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce que quand ils te regardent, ils disent, mais il est bizarre ce gars-là. Ou elle est vraiment étrange. Elle est pas comme nous, quoi. Je sais pas, elle est sainte. Elle est pure, je comprends pas. Là, il y a un truc que je pige pas, tu vois. Ça, c'est bien quand les gens voient ça. Parce que ça veut dire que vous êtes différent. Ça veut dire que vous êtes un vase d'honneur. Trois. Il est utile. Il est utile. Chapitre 2, verset 21 encore. Il est sanctifié, utile à son maître. Moi, j'aime bien, c'est tellement court et simple et clair. Utile à son maître, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est utile. Vous êtes utile. Dans Actes 15, Paul, à un moment donné, dit Jean-Marc, c'était un disciple qui n'était pas fidèle, lui dit, il n'est pas utile. Il ne m'est pas utile. Mais dans 2 Timothée 4.11, à la fin, il dit, ah non, non, maintenant il est utile. Dans Philémon 11, il appelle Onésime utile. C'est simple. Un vase d'honneur chez vous. Il est à utiliser, j'espère. On a du plaisir, on invite des gens à la maison. On aime bien sortir les belles choses que peut-être on a reçues. Moi, j'ai toujours dit à mon épouse, écoute, si quelqu'un, enfin, parce qu'on a reçu des cadeaux, on a des trucs super belles chez nous, j'ai toujours dit, bah, écoute, on les a reçus, on les utilise. Il faut les utiliser. Il faut faire profiter les autres. Et peut-être c'est pareil chez vous. Utile. Mais parfois, il y a des choses qui sont tellement belles qu'on les met de côté, on ne veut pas les utiliser parce qu'on a peur de les casser. Moi, des fois, vous savez, des fois, vous avez une lampe chez vous avec un lustre, c'est ça? Et quand on achète un lustre, il a un plastique dessus. Il y a des gens qui ne veulent pas enlever le plastique parce qu'ils ne veulent pas abîmer le lustre. Et moi, je me suis toujours dit, mais c'est quand même bête. C'est-à-dire que moi, je préfère utiliser mon lustre et enlever le plastique. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez là, d'accord ? Parce que c'est utile, et c'est beau et c'est joli. Alors voilà, est-ce que vous êtes utile ? Franchement, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes utile au Seigneur ? Est-ce que là, il peut regarder et dire, ah, alors voilà un vase pur, sanctifié, utile. Je te prends, je t'utilise. En fait, ça, c'est listé avec le quatrième aussi, le quatrième point. Il est actif, regardez 21D. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quatrième point. Qui veut dire qu'il n'est pas tout simplement décoratif. Non, il fait des bonnes œuvres pour le Seigneur. Il n'est pas passif, mais actif. Dans le verset 17 du chapitre 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que vous savez que le jour, si vous connaissez Christ personnellement, le jour où Dieu vous a touché, et Dieu vous a donné son pardon en Jésus-Christ. Il dit exactement pourquoi il vous a créé et pourquoi il vous a sauvé. Je vais vous donner le but, d'accord ? C'est intéressant. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous n'êtes pas venu à Christ par vos œuvres, vous êtes venu à Christ par la grâce de Dieu. Mais, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est actif. Mes amis, Dieu nous a donné des dons spirituels pour que nous les utilisions pour le bien du Seigneur, mais des autres chrétiens. Et de ne pas utiliser ce que Dieu vous a donné, c'est d'être en déshonneur vis-à-vis de Dieu qui vous a créé pour servir. Alors, c'est intéressant. Utile et actif. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est ton cas ? Tu dis, ouais, écoute, je ne sais pas, pour l'instant, je me pose des questions. Super. Nous avons créé, il y a quelque temps en arrière, une liste qui s'appelle nos activités. Derrière, il y a une liste, pas totale, mais une liste de toutes les activités, plus ou moins, qu'on fait dans l'Église, avec le nom du ou de la responsable de l'activité. Moi, je vous lance un défi. Il y a plein de choses à faire dans cette Église. Par exemple, je vous donne un truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, maintenant, il y a deux églises, on se réunit en même temps, donc on a créé des enseignes. Hein, vous savez, les grandes enseignes là, que vous avez vues en rentrant. Alors, en venant ce matin, ça fait 3 semaines qu'on le fait. Pour l'instant, c'est moi et mon fils. C'est nous qui les montons, les démontons. Je me suis dit, maintenant, en fait, on aurait besoin de quelqu'un. Ou peut-être un petit comité de montage d'enseignes. Voilà, d'accord ? Pour que chaque dimanche, quelqu'un vienne, peut-être une demi-heure avant, monte et descende l'enseigne. Il y a plein de petites tâches comme ça, auxquelles peut-être vous ne pensez pas, où on aurait besoin de gens, je sais que pour la sono, il y a des tas de choses en fait. On a vraiment besoin de personnes qui peuvent nous aider. Alors moi, je vous lance le défi. Je lance le défi parce que le texte s'y prête. Est-ce que vous êtes utile ? Est-ce que vous êtes actif ? Moi, je vous supplie de l'être pour être un vase d'honneur. Et s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, ben on va trouver quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Si vous voulez vraiment servir et il n'y a rien là, on va créer un ministère pour vous. On va trouver une solution parce que, bibliquement, tout le monde devrait servir d'une manière ou d'une autre. Même si c'est un petit ou un grand service, c'est pas grave. D'accord ? Super. 5. On décrit encore un vase d'honneur. 5. Il est fuyard. Il est fuyard. Alors là, c'est vrai que, bon, c'est qu'une illustration, c'est une analogie, d'accord ? Donc on a de la peine à imaginer un vase qui fuit. Je comprends. Mais regardez ce qu'il dit au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Là, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Ah, c'est encore de l'actif, là. Hein. Alors, le mot grec, fuis, vous le connaissez super bien. Le voici. Fuego. Alors, ça pourrait, pour certains, impliquer le feu. Mais ça, on va mettre de côté, c'est pas celui-là. C'est fugitif. 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 soit un fugitif. C'est quoi un fugitif? Fugitif, c'est celui qui fuit. D'accord? Alors c'est intéressant, c'est le même mot que Jésus utilise dans Matthieu 10, 23 pour dire à la fin des temps, quand la tribulation va venir, fuyez aux montagnes, partez. On peut imaginer un immense danger, ils disent, fuyez au Salève, montez au Salève, vite, 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 parce qu'il y a une inondation qui vient. Alors là, vous partez en courant, c'est cette idée-là de courir, presque en paniquant. Dans 1 Corinthiens 6, 18, alors là, c'est vraiment hyper clair aussi, il dit ceci. Fuyez la débauche. Et là, il parle de la débauche sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Tous les péchés sont mauvais, mais il y a un péché, il y a quelque chose de particulièrement néfaste et, comment dire, choquant à Dieu par rapport au péché sexuel, à cause de l'intimité de ce péché. Et il dit, fuis la débauche sexuelle. Ne te permets pas de rentrer dans un mode de vie de débauche sexuelle. Et c'est important, c'est vraiment important de fuir cela, de fuir cela, parce qu'il dit dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Le lit conjugal est fait pour le lit conjugal, pour le mariage. Et ensuite il dit, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Non, un chrétien, il fuit. Il fuit ce type de péché. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit de fuir l'idolâtrie. Encore 1 Timothée 6, 11 nous dit de fuir l'amour de l'argent. Pas l'argent, l'amour de l'argent. Et ici, fuit les passions de la jeunesse. Alors, c'est intéressant, non? Passion de la jeunesse. Alors moi, j'essaie de me poser la question cette semaine, est-ce que je suis jeune ou pas? Alors, je vous laisse déterminer la réponse, d'accord? Mais je vous pose aussi la question, est-ce que vous êtes jeune ou pas? Est-ce que les passions sont différentes ou les mêmes? Alors, moi, je crois qu'il y a globalement trois types de passions de la jeunesse, d'accord? Mais je ne pense pas que c'est que des passions, que pour les jeunes. C'est simplement que c'est plus intense quand on est jeune et c'est peut-être un petit peu moins intense plus on vieillit, d'accord? Premièrement, c'est les passions des appétits physiques, dont le sexe semble être le plus difficile à contrôler. On vient de le voir. Deuxièmement, les appétits de l'avoir, l'argent, les choses, les trucs, les plaisirs. C'est un appétit énormément, très fort dans nos cœurs. Et troisièmement, ce sont les appétits de l'orgueil. L'orgueil, l'arrogance, l'insolence, l'impatience, la frime. D'accord? Alors, d'où est-ce que je sors ces trois péchés de la jeunesse? Eh bien, je les sors de 1 Jean 2,15, où Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, donc, ça c'est l'amour, tout ce qui fait plaisir à la chair, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le sexe semble être un des points les plus forts aujourd'hui. Deuxièmement, la convoitise des yeux, c'est l'amour des choses. Et troisièmement, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'avais déjà mentionné, je crois que j'avais appelé ça, fille, fric, fierté. Les trois F, d'accord? Faut attention. Il faut fuir ces choses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne va jamais chuter dans ces choses? Non, bien sûr, on va chuter de temps en temps. On se comprend. Ça peut arriver qu'on chute dans ces choses. D'accord? Ça peut arriver. Mais le chrétien, lorsqu'il chute, lorsqu'il plonge dans un de ses péchés, il réagit, son cœur déteste cela. Et il le fuit aussi vite qu'il peut. Alors, jeunesse, apparemment, Timothée avait entre 35 et 40 ans à l'époque. Donc, si vous avez moins de 40 ans, vous êtes jeune, apparemment. Si vous avez plus de 40 ans, Non, je ne vais aller pas jusqu'à ma pensée, mais c'est simplement qu'il avait entre 30 et 45 ans et Paul lui dit de fuir les passions de la jeunesse. Six, il faut que j'avance un peu plus vite. Il est bon. 2 Timothée 2, regardez ce qu'il dit, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. » L'homme de Dieu, le vase propre, doit non seulement fuir, mais ici rechercher. La justice, c'est un comportement droit. Il est juste et droit. Il n'est pas tordu. Un oui, c'est un oui. Un non, c'est un non. Il est honnête. On peut compter sur lui. La foi, il recherche la foi. Ici, probablement, l'idée est plus de la fidélité. Il est fidèle. On lui donne un travail, il le fait jusqu'au bout. Fidèle. L'amour agapé, recherche l'amour agapé, c'est l'action de se sacrifier pour le bien d'un autre. Il est vite à servir, vite à sacrifier, vite à aider quelqu'un. Et recherche la paix, un mot duquel nous dérivons le mot serein. Serein. 7. Il est intégré, ou qu'est-ce que j'ai mis ici? Il est intégré, juste, il est intégré. Regardez, il recherche ces choses, verset 22, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors ça, je trouve vraiment intéressant. Et là, j'aimerais vous parler, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ou peut-être vous connaissez le Seigneur depuis très peu, il y a un côté de la vie chrétienne qui est hyper difficile, très très difficile. Et tout le monde doit y passer. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous n'y pensez pas au moment, mais ça peut devenir, il y a un passage très difficile et ensuite, ce passage passe. Il faut persévérer. C'est quoi ce passage difficile? Eh bien, nous avons vu déjà que le chrétien va s'éloigner de l'iniquité, il va s'éloigner des faux docteurs, il va s'éloigner de la passion des jeux, de la passion de, les passions de jeunesse. Il va s'éloigner de chrétiens qui vivent dans le péché, on l'a vu dans Corinthiens 5. Mais il va aussi avoir et vivre un changement dans ses relations. Dans 1 Corinthiens 15, 33, nous lisons ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il va réaliser que son monde vient de basculer, il a été sorti. Hein, on l'a vu tout à l'heure, sanctifié, sorti du monde de péché et placé dans le monde quelque part des justes. Ceux qui ont été justifiés par la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, il va réaliser que ceux avec qui il passait du temps avant, qui ne connaissent pas le Seigneur, bah, continuent dans leur mode de vie de passion, de jeunesse, de tout ce que le monde aime. Mais vous, tout d'un coup, vos désirs changent. Maintenant, vous aimez ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est juste, et vous aimez de plus en plus à passer du temps avec ceux qui sont ainsi. Et c'est ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas, ici, regardez. Dans 2 Timothée 2, 21, il dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et tout d'un coup, tu commences à réaliser que tu aimes plus passer du temps avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur que d'être avec ceux avec qui tu as passé toutes ces années avant, mais qui t'abaissent dans ce monde de péché que tu n'aimes de moins en moins. Et là, tout d'un coup, tu te sens tiraillé. Et c'est vraiment difficile parfois. C'est le psaume 1 encore. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, peut-être avant d'être avec les méchants et d'écouter leurs conseils, c'était la norme. Avant d'être sur la voie des pécheurs, c'était la norme. Avant d'être en compagnie des moqueurs, c'était la norme. Tout d'un coup, Dieu transforme ton cœur et tu n'aimes plus les méchants ni le conseil des méchants. Tu n'aimes plus les pécheurs et la voie des pécheurs. Et tu n'aimes plus les moqueurs et la compagnie des moqueurs. Et tout d'un coup, tu te retrouves coincé entre tes amis d'avant et tes nouveaux amis. Et ça, c'est un passage extrêmement difficile. Moi, je l'ai vécu. Quand je me suis converti, je suis revenu de l'Inde et je pensais que je serais bien avec tous mes amis, mais j'ai réalisé que mes comportements, mes passions de jeunesse avaient changé et j'avais plus rien en commun avec eux, quoi. Et là, en quelques semaines, quelques mois, je me retrouvais dans les études bibliques, dans mon université. Et alors, mes copains d'avant pensaient que j'avais complètement déconnecté, quoi. Complètement, là. Et ce qui est vrai, j'avais complètement déconnecté par rapport à eux et leur mode de vie. Mais je connectais à fond avec les chrétiens évangéliques et la parole de Dieu et la Bible. Et maintenant, mes amis d'avant me voyaient venir avec une Bible. Mais ils croyaient que j'étais complètement fou, quoi. Oui, j'étais fou pour Jésus. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et franchement, c'est pas toujours facile. Et nous devons avoir beaucoup de tact et prier pour ceux qui se convertissent à Christ. Que Dieu les aide. Regardez encore le Proverbe 22, un verset incroyable. Et je réalise qu'on va pas passer au point, au dernier point, on va le faire la semaine prochaine, comme ça, là, relax, d'accord? On fera le dernier point, on n'est pas du tout pressé. Mais je pense que c'est bien de finir ces points bien. Regardez, Proverbe 22, 24. Proverbe 22, 24, il dit, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas passer du temps avec un homme colérique ou avec un homme violent? Verset 25, « De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. » Il dit, si tu passes beaucoup de temps avec un homme colérique et un homme violent, devine ce qui va se passer. Toi, tu vas devenir colérique et toi, tu vas devenir violent. Oui, mais est-ce que moi, je ne peux pas l'influencer par ma vie chrétienne? C'est possible. C'est possible. Mais c'est souvent l'opposé qui se passe. Parce que Satan attaque, nos passions attaquent, notre nature attaque. C'est dur. Et je vous dirai en plus, allez, je vais jusqu'à la fin de ma pensée ici. Je m'inquiète vraiment de voir des gens papillonner, des chrétiens papillonner d'église en église, vous allez être très irréguliers. Je ne prêche pas du tout la morale, mais je vous donne ma pensée. Hébreux 10, 24 en parle. L'église, ce n'est pas simplement, ouais, super, j'y vais, on va chanter, c'est excellent. Ouais, le culte était pas mal aujourd'hui. Non, il était pas très bon. Voilà, il y a eu des ratés. Ouais, c'était super. Hein. Souvent, on peut venir avec ce côté d'évaluation. Je comprends. J'ai déjà fait. D'accord? Mais Hébreux 10, c'est très intéressant. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi je viens, moi? Vous me direz, ouais, c'est facile, t'es pasteur. D'accord. Mais c'est pas ma première raison. Ma première raison, c'est parce que j'ai besoin de venir. C'est un besoin. Bien sûr, j'aime louer le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime le louer. Mais il y a un autre besoin. Moi, j'ai besoin que vous veillez sur moi. J'ai besoin d'être redevable à quelqu'un pour ma vie chrétienne. C'est ce qu'il dit. Veillons les uns sur les autres. En venant, je vous invite à veiller sur moi, sur ma famille, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. En vous voyant et en sachant que vous veillez sur moi, ça m'excite à l'amour, agapé, à vouloir aimer, et à vouloir faire des bonnes œuvres. On me regarde. Alors, je ne le fais pas que parce que on me regarde. Mais c'est un garde-fou. Moi, j'ai besoin de cela. Et verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Mais regardez, « Exhortons-nous réciproquement. » J'ai besoin d'être exhorté par vous, et vous avez besoin d'être exhorté par moi. Vous avez besoin d'être exhorté par ton frère et ta sœur. Nous avons besoin d'être exhortés mutuellement. Ça, c'est tout le charme des cellules de maison. Ouais, ça donne l'impression que je fais de la pub pour notre église. Ben, c'est vrai, quelque part j'en fais aujourd'hui. J'ai pas honte, parce qu'en fait, je pense que dans notre église, on essaye de créer des situations pour justement nous aider les uns les autres à avancer dans le Seigneur et être des vases purs et des vases d'honneur. Alors, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Proverbe 2, 20. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien et tu garderas le sentier des justes. Plus tu es avec les gens de bien, plus tu es avec les justes, plus tu vas marcher dans la voie de la justice. C'est simple. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20 dit, celui qui fréquente les sages devient quoi? Sage. Waouh, allez voir, c'est génial. Celui qui fréquente les sages devient sage. J'espère que nous sommes sages. Si nous sommes sages, nous allons nous aider à devenir plus sages. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si tu passes du temps avec les insensés, tu deviendras insensé. Tu passes du temps avec les sages, tu vas devenir sage. Est-ce que je préconise se couper du monde? Non, Paul l'a dit dans Corinthiens 5, on ne se coupe pas du monde. On doit être dans le monde, mais attention, lorsque le monde commence à nous influencer, on se retire. Psaume 119. J'arrête dans quelques instants. Psaume 119, 63. Écoutez, c'est génial. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. C'est beau ça, non? Et le verset 115 dit, éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. C'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, Seigneur, je veux observer les commandements, mais la compagnie des méchants m'empêche. Alors tu fais quoi? Tu poses ta Bible ou tu poses le méchant? Tu poses le méchant et tu prends ta Bible. C'est ce qu'il dit. Lorsque le méchant commence à t'influencer, loin de la parole de Dieu, tu commences à te distancier de lui. Et voilà tout le but de l'Église. C'est de nous retrouver, nous exhorter, nous encourager pour que demain, lorsque vous retrouvez dans le travail, dans le monde du travail, avec tous ces gens autour de vous qui peut-être n'aient pas les mêmes valeurs que vous, vous soyez sages. Et peut-être dimanche prochain, vous allez revenir en courant, parce que ça a été peut-être dur cette semaine. Ben, j'espère que c'est le cas. Et qu'on revienne tous en courant, joyeux d'être là, pour être encouragés. Bon, peut-être que je m'arrête. Hein. Bon, écoutez, le huitième point, il est averti. Je vais simplement lire ce dernier verset. Il est averti aussi. De Timothée 2, 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà, tout ce qu'il est en train de dire, c'est que parfois dans les églises, on peut avoir des discussions complètement inutiles qui ne font que créer le trouble. Il ne faut pas se chamailler sur des choses comme ça. Ça va encore plus loin aussi parce que si on trace cette utilisation de cette idée, les discussions folles, inutiles, il en avait déjà parlé, par exemple au verset 16, « Évite les discours vains et profanes », on avait très bien vu que le contexte était quand même l'erreur. Donc il faut se repousser de l'erreur. Il faut être averti, il faut se distancier de ceux qui peuvent vraiment, vraiment nous amener à un problème théologique. Alors voilà mes amis, le descriptif d'un vase d'honneur. Alors mon intention était bonne aujourd'hui, je voulais vraiment terminer chapitre 2. Je voulais terminer le dernier point. Un serviteur, mais ça, on va le faire dimanche prochain. Ça, c'est tout l'avantage de la prédication séquentielle. On s'arrête quand on veut et on continue quand on veut. Donc, si vous voulez la fin, il faut revenir dimanche prochain. D'accord? C'est aussi simple que ça. Mais on va terminer. Et j'aimerais vraiment vous demander de réfléchir à ces 8 points. Et là, on va juste peut-être écouter Flavius pendant une minute. Il va faire un petit peu de musique. Et j'aimerais qu'on soit en silence et que vous réfléchissiez. On va laisser les points. J'aimerais que vous regardiez cette liste. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui ne va pas? Confesse-le maintenant. Dis au Seigneur, Seigneur, écoute, moi je veux être un vase d'honneur. Je te donne aujourd'hui juste un point. S'il y en a 20, ça va être trop. Commence avec un point. Un point, Seigneur, que je te remets aujourd'hui, que je confesse. Allez, prenons une minute. Oh Seigneur, merci de tout cœur pour ta parole qui est si claire. Seigneur, alléluia pour cela. Tu nous connais chacun de nous dans le plus fin fond de notre cœur. Fais ton travail, Seigneur. Fais de nous des vases purs, des vases d'honneur. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.